Salut Gab.
Salut Alex, comment ça va?
Oh, très bien, toi?
Très bien. Hey Alex, avant qu'on fasse une nouvelle, j'ai des péripéties à raconter.
Oh non, pas une péripétie. Vas-y.
Des péripéties de chalet. Donc, ma famille, on a un chalet loin dans le bois, puis ça prend généralement 300 km de route, suivi de, apparemment, du chemin choisi, 50 ou 70 km de chemin forestier. Puis ça, c'est quand on se trompe pas, puis qu'on prend pas le mauvais chemin en rame, puis qu'on râle un
Ah,
peu.
ça c'est avec moi, ça. Tu sais que mes
Ouais.
parents, ils écoutent,
Mais ça a bien été
hein?
avec
Ouais,
ta
ils ont
famille.
continué.
Le courage, la légende,
La
bref.
rame, exactement.
Là, comme c'est l'automne, il fallait que je ramène mon VTT du chalet. Puis c'est la première fois que je le ramenais avec ma petite remorque 1988 que j'ai achetée sur Marketplace il y a un an et demi, 2 ans. Donc c'est comme le baptême du feu de ma remorque. Fait que je me suis amené plus d'outils au cas où qu'elle brise parce que c'est comme une toute petite remorque 4x6. Puis j'étais pas tant confiant que ça allait bien fonctionner. Écoute, en montant, là, la remorque, elle sautait tellement, il n'y avait pas de poids dedans, puis cette remorque-là doit peser moins que 100 kilos. Là. T'es, mettons, si elle est attachée sur l'auto, je peux prendre le derrière de la remorque puis la lever dans les airs, puis lever
Eh
haut.
mon
C'est
Dieu, ok,
pas très lourd. Là. Mettons que ça pèse 150 livres, là, je ne sais pas, 200 livres, c'est pas bien lourd. Bref. Donc, ça sautait tellement avec genre 4 pieds dans les airs tout le temps, mais c'était correct parce qu'elle a survécu. Fait que je me suis rendu. Déjà, un, j'étais quand même content. Il a juste fallu que j'attache le panneau parce que les attaches pour le panneau ne tenaient pas. Fait que là, ça l'allait, ça a super bien été. Le retour. Là, j'embarque le VTT dans la remorque. Là, je commence à rouler. Je fais un crime, ça va bien. C'est plus stable. Puis là, une fois que les lames de ressort sont chargées, qu'il y a un peu de poids dessus, un VTT, ça pèse à peu près 500 livres. T'es 200, 250 kilos. C'est une remorque que tu peux mettre peut-être 800 livres, 400 kilos dedans, quelque chose comme ça. Tout était bien, qui allait bien. Puis là, je roule. Après à peu près 10 km, il y a une petite colline. Puis là, je monte la petite colline avec mon auto. Je ne suis pas 50-60 km/h. Une vitesse raisonnable pour ces chemins-là. Puis là, juste après la colline, il y avait une roche assassine au milieu du chemin. Tu sais, dans le fond, elle était drette en plein milieu du chemin. Une roche d'à peu près 15 cm de haut par, mettons, 25 cm de large par à peu près 20 cm dans l'autre sens. Puis elle était juste là, en train d'attendre avant de tuer ma panne à l'huile. Tu sais, toute sa vie, elle a attendu qu'un pick-up la face levée pour assassiner une panne à l'huile. Bref, j'ai essayé de l'éviter. J'ai comme tourné à droite, mais était dans le milieu du chemin. Je pouvais pas
Ah,
me
mon Dieu.
tirer dans le clos. Fait que j'ai roulé dessus avec mon char. Puis là, ça a fait le temps que je débarque de mon auto, j'avais un flat. Fait que j'ai roulé dessus avec mon pneu avant droit.
Pas un autre pneu Michelin?
Oui, un autre pneu Michelin. C'est le deuxième pneu Michelin Latitude Tour HP que j'explose dans ce chemin-là. Ben, il y a une fois, il y en a un qui a fait une balloune que j'ai changée. Puis là, celle-là, ben, c'était son dernier été, mais il n'a pas fait de ballon, il a juste pété comme une
Mouru.
ballon. Il a juste mouru. Mais là, ça tombe bien parce que j'avais amené tous mes outils pour hypothétiquement réparer mon trailer. Fait que j'avais ma clé à choc 1/2, j'avais mon set de douille, j'avais ben, le jack normal de l'auto. Puis, tu sais, il y a un pneu de secours plein de diamètre dans mon auto, mais c'est un F4. T'as pas un pneu de secours pleine grandeur. Puis là, ça me déçoit un peu parce que, tu sais, j'avais un CRV avant 2004, puis il y avait un pneu sur la porte en porte de grange à l'arrière qui était éventuellement remplacé par un haillon. Puis c'est le fun d'avoir un pneu pleine grandeur parce que tu le remplaces, puis c'est comme si tu avais un pneu, puis t'as pas un pneu plus faible. C'est
Non,
vraiment,
ça c'est
c'est comme si
sûr,
tu
ça
avais un
c'est
pneu.
vrai.
Bref, en tout cas, on avait la clé à choc, on était trois de toute façon, ça a bien été. Là, en dedans de 10 minutes, bon, puis j'ai pas pris de photo parce qu'il y avait quand même des véhicules qui circulaient, puis c'est un chemin assez étroit, puis déjà que je venais de trouver un spot un peu plat, là, j'ai roulé sur mon pneu crevé, mettons une vingtaine de mètres juste pour être pas dans une côte, là, après la colline, puis pouvoir changer ça, puis je l'ai remplacé. Fait que finalement, j'ai fait les 40 autres kilomètres de chemin forestier vraiment tranquillement. Après ça, j'ai roulé jusque chez nous. Sur ma crevaison. Puis là, il faut que je check si j'ai pas cassé un mag parce que la roche, elle a comme cassé en deux. Genre, elle a explosé.
I.
Il y a
Ok,
comme
ouais,
un
non, ça
morceau de
se
la
peut.
roche qui était dans le clos.
Ben, t'as peut-être plié la roue, là, facile, mais bon.
Ben, je sais pas. Il y a une poque dessus, mais je sais pas si elle est cassée ou pliée. Il va falloir que je regarde ça plus en détail. Mais là, la question que je me pose, c'est l'année prochaine. Parce que là, ces pneus-là, ils étaient à remplir. C'est leur dernier été. C'est clair que. J'avais déjà mon rendez-vous pour mettre mes pneus d'hiver dans une semaine. Fait que, tu sais, ça me fâche pas d'avoir pété un pneu. Il restait une semaine de vie dedans. Mais là, je me demande, est-ce que je devrais acheter des pneus hors route pour pas que ça arrive? Tu sais, des pneus, ils appellent ça 8 plis, 10 plis, peu importe, là, des genres de Biff, Goodrich, All Terrain, KO2,
des pneus Kumo, patente à gosse. Ouais.
Ce qui est essentiellement, généralement, appelé des pneus 4 saisons homologués hiver aujourd'hui, là, ou qui ressemblent à des pneus LT de camionnette, mais qui ne sont pas des pneus LT. Je suis comme en questionnement. Fait que là, il faudrait que les gens.
La question, c'est combien de fois que le RAV4 va au chalet par année?
Mettons 5-6 fois.
Ça vaut-tu la peine que tous les autres kilomètres que tu fais sur la route soient moins hot, moins bons,
c'est ça,
plus
c'est
rugueux,
ça la question.
Plus de bruit?
Mais j'ai, tu sais, écoute, j'ai brisé 2 Michelin en 2 ans dans ce chemin-là. Fait que là, je suis comme dans un dilemme parce que je le sais que mon auto va être moins confortable, puis elle va consommer plus d'essence, puis elle va être plus bruyante. Mais je veux aussi pas que ça réarrive. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que j'invite les gens à nous écrire en commentaire, est-ce que je suis débile de mettre des pneus en route sur mon RAV4 ou pas?
Ouais, parce qu'on connaît pas tant ça, nous autres. On est beaucoup moins en route que...
Ouais. Fait que écrivez-nous dans les commentaires vos commentaires. Puis si vous trouvez que je suis débile, dites-le. Puis si vous pensez que c'est la meilleure idée au monde, on veut le savoir aussi. Donc, on va passer aux nouvelles, Alex. T'as plusieurs nouvelles pour nous.
Ben oui, les nouvelles. Ah, j'aime tout ça, les nouvelles, moi. Ben, Silverado électrique, Gab, ça te donne une... ça te dit quelque chose?
Oui.
Ben, il n'est pas encore sorti, évidemment. Il n'est même pas encore annoncé. Mais General Motors,
mais la semaine dernière...
Non, ben, ils ont annoncé qu'elle allait l'annoncer. C'est hot, hein?
Ah!
C'est annoncé qu'elle allait l'annoncer. C'est comme dire, bientôt, je vais te le dire parce que je vais te le dire. Mais c'est plus ça. Fait que, dans le fond, oui, le Consumer Electronics Show à Las Vegas, le 5 janvier 2022, donc c'est quand même loin. Silverado électrique sera présenté. Puis, ce que je suppose, c'est pas que, genre, comme un téléphone, ça va être genre ben, précommandé de vendredi, vous l'aurez le vendredi suivant, là, ça va être genre précommandé maintenant, donnez un 100$ et vous le recevrez probablement dans 6 mois. Mais bon, regarde, c'est fait.
Mais c'est quand même sur la même plateforme que le Hummer électrique. Le
absolument,
Hummer
la plateforme Ultium. Ben, le Cadillac Lyric est sur cette plateforme-là. Plein d'autres véhicules qui s'en viennent qu'on ne connaît pas vont être sur cette plateforme-là. Moi, là, tout ce que j'aime, là, c'est que c'est une batterie 800 volts puis ça charge beaucoup plus vite que tout le monde. Fait que c'est juste ça, là, moi, je suis très heureux.
Ouais,
c'est important de charger vite.
On s'entend qu'au minimum, il existe une version qui charge à 350 kW. Ça ne veut pas dire que le modèle de base va le faire, mais il va y avoir une version qui charge à 350 kW. Puis ça, c'est intéressant. Surtout, et bon, le modèle Hummer EV va avoir une batterie. La plus grosse batterie va être de l'ordre, on pense, peut-être de 200 kW. Fait que, tu sais, quand tu charges à 350 kW, là, ça fait une différence. Là. Ça veut dire qu'en, je sais pas, 30, 35, 40 minutes, tu es à 80% de ta charge, puis tu peux faire un autre 500 km. Là, c'est le fun.
Fait que ça, c'est très bon. Fait que ça va être à voir. Puis ça va être probablement là, que c'est, tu sais, tu commences l'année en gros là, quand GM va présenter ça. Tu sais, en réalité, il y a le Rivian qui est sorti. Il y a des gens qui en ont. Là. Le F-150 électrique s'en vient dans les prochains mois. OK, il y en a 100 000 de réservés. Mais GM s'en vient, ça va aller vite. Ça va, tout va dépendre de comment que la chaîne d'approvisionnement va être capable de fournir. Tu sais, peut-être il y a un an, j'avais pas de doute, mais là, j'ai peut-être plus de doutes. Mais c'est pas de la faute des constructeurs automobiles, vraiment. Là. C'est plus
c'est ça, parce le que contexte, les nombres d'unités à produire pour le F-150, ça nous a déçus un peu. On trouvait que c'était bas, mais on le sait pas encore pour GM. Est-ce qu'ils vont en produire 100 000 la première année ou 20 000, t'sais,
mais attention, pas. Ford s'est révisé. Il y a eu 50 000 réservations, il y en a eu 100 000 après, puis Ford a dit, garde, on n'en fera pas juste 50 000, on va en y faire les 100 000, puis ils vont construire une autre usine. Fait que tu vois qu'ils sont comme, OK, la demande est élevée. Là.
Ben, c'est sûr que la demande est élevée, surtout aux États-Unis, le modèle, c'est quoi, c'est le Pro. Le modèle de base du F-150 Lightning à 40 000 $ là, ça va être fantastique. C'est sûr qu'il y a plein de gens, plein d'entreprises qui vont acheter ça. US.
Ah, tu parles le pro, le F-150, excuse-moi, ouais, j'étais là, 40 000, tu sais que tu as vu 40 000.
Au Canada, non, ouais. Ça arrive
non,
pas
non,
ici.
Non.
Mais, prochaine nouvelle, ça m'intéresse.
Ouais, vas-y, ça je te la laisse, là. C'était trop content.
Le Lexus LX 600 s'en vient, ça, le Lexus LX, c'est la version, dans le fond, Lexus du Land Cruiser, du plus gros Land Cruiser. Donc, on n'aura pas le Land Cruiser... Au Canada, en fait, ils l'auront même pas aux États-Unis.
Ben, on l'a jamais eu, presque.
Ben, au Canada, on n'a jamais eu le Land Cruiser, mais on a eu le Lexus LX 570 puis le LX 470 avant. Fait qu'on avait des Land Cruiser, c'est juste que c'est des Lexus. Puis là, ben, on va avoir le nouveau Lexus LX 600 qui est sur la base du Land Cruiser. J'ai vraiment hâte de voir ça, surtout que on pourra jamais en acheter un parce que ça va coûter très cher. T'es plus de 100 000 $, c'est certain.
Ben, moi, je pense que ils doivent se détailler à peu près tout à 150 000. Tu sais, dans le fond, c'est comme... C'est comme acheter un Mercedes Classe G, mais 100 000 moins cher. Tu comprends? Moins puissant, mais c'est le même genre de capacité de route, par contre.
Ben, c'est pas 100 000 moins cher parce que t'as pas de version sport du Land Cruiser. C'est comme acheter un Mercedes Classe G. C'est comme si t'achetais un G500.
Un G500.
Bref, un Classe G qui est pas AMG. Mais, tu sais, ce qui est fascinant, je sais pas si tu savais, là, j'ai regardé ça récemment, là, aux États-Unis, 15% des voitures qui ont plus de 200 000 milles, là, plus de 320 000 km, c'est des Land Cruiser. Mm-hmm. Le Land Cruiser, c'est pas un véhicule très populaire, mais c'est fiable. Puis tellement cher que ça vaut la peine de continuer de les réparer parce que ça continue de valoir cher. T'sais. Fait que les gens, ils les réparent puis les gardent. Fait que, puis le Sequoia, c'est genre 7%.
Puis t'as c'est quand même fiable, le Sequoia. Ouais, c'est ça. Mais là, ben important, moi, je suis plus côté technique de ces affaires-là. Le nouveau Land Cruiser et le Tundra, c'est la même plateforme. Beaucoup, beaucoup de composantes sont partagées, d'où la motorisation probablement en Amérique du Nord. Là. Je suis pas mal sûr qu'ils vont juste fitter la même chose. On n'aura pas les moteurs diesel.
Ben, j'imagine qu'on va savoir avoir la version hybride, puis peut-être la version non-hybride. Mais t'sais, y a pas... honnêtement, je pense que Lexus devrait juste offrir la version hybride.
That's it, that's all, c'est tout. Non, mais moi, non, c'est vrai. Ils n'ont même pas besoin de mettre le système hybride qu'il y a dans les autres Lexus. Là. Avec la transmission de vitesse qu'ils ont là, c'est assez robuste.
Non, non, ils peuvent juste mettre ils peuvent juste mettre la mécanique du Tundra hybride, puis ça s'arrête là, puis ça va être con. Moi, je serais bien content. J'aimerais ça en avoir un, c'est juste que, t'es... je pourrais aussi ne pas avoir de maison, puis avoir un Lancôme.
Ah oui, c'est vrai, c'est pas de maison.
Je pourrais vivre dans une boîte en carton, puis en avoir un. Puis, après ça, tu vas nous parler d'LG.
Ouais, ben là, t'as le rappel des batteries des Chevrolet Bolt. L'entièreté des batteries de Chevrolet Bolt produites depuis le début ont été rappelées. Il y en a un certain nombre qui sont réellement un problème, mais toutes les batteries sont rappelées. Donc, General Motors est entendu avec LG. LG va compenser. Le remplacement des batteries va se faire bientôt. L'intervention sur votre véhicule devrait prendre à peu près 2 jours. Vous allez avoir une batterie flambant neuve, garantie 8 ans, je ne sais pas combien, de 100 000 km, autour de 100 000 ou 160 000 km. Donc ça, c'est bien parce que pour quelqu'un qui veut acheter une Bolt usagée, mettons, dans un an, ben, elle va avoir 100 000 km, mais avoir une batterie flambant neuve, ça, c'est quand même bien. Là. Surtout que la dégradation des batteries existe, là. C'est pas un mythe. Là. Mais bon, tant mieux que LG compense GM parce que, mettons, là, que t'es... La t'as Bolt, 77 000 véhicules qui attendent une batterie cette année. Là.
La Bolt sur le marché neuf, c'est intéressant. Sur le marché usagé, là, tu peux avoir une belle Bolt là, à 20 000 $ là, déjà. Là. Mm-hmm. C'est quand même une 384 km d'autonomie, les premières. C'est vraiment intéressant. Ouais. Honnêtement, là, si j'avais une deuxième auto maintenant, ça pourrait être ça. Je dis pas que j'en achète.
Avant, c'était la Kia Soul et la Leaf qui avaient cet endroit-là. Là, les voitures autour de 20 000, 18 000 électriques.
Mais c'est des autos qui n'avaient pas beaucoup d'autonomie.
Exactement.
C'était pas tu pouvais pas faire Québec-Montréal avec ces autos-là, mais une Bolt, tu peux.
Pis... Ben, on l'a fait.
Ouais, mais tu l'as fait, c'est ça exactement. Fait que tu sais, je suis vraiment content qu'on commence, c'est tout juste, là, on commence à arriver là. Tu sais, on s'entend, là, dans 4-5 ans, il va y avoir des Ioniq 5 puis des ID4 qui vont être rendus là, mais pas encore là.
Mais tu parles d'ID4, j'ai une nouvelle qui n'était pas dans notre petite liste, là. À Halifax, en fin de semaine, il y a un paquebot qui est arrivé avec tous les premiers ID4 qui ont été commandés. Donc, si vous avez commandé un ID4, ça s'en vient. Probablement que Volkswagen nous a déjà appelé, mais tant mieux, il y a un bateau plein de ID4. Fait que bravo.
Fait qu'on va pouvoir dessiner un peut-être bientôt. Hein?
On espère. Oui, on aimerait vraiment ça.
Vous pourriez nous écrire.
Je l'ai essayé en Islande, mais là, il faut le laisser au Canada dans des conditions canadiennes. Tu sais.
Oui, effectivement. Genre, cet hiver, ça serait quand même nice, surtout un modèle 4x4.
Avec la thermopompe.
Avec la thermopompe. Puis, pour conclure notre émission, j'ai...
Ouais, sujet principal, Gab.
Sujet principal, cette semaine. Ben, en fait, pas cette semaine. Mais cette semaine, mais pas cette semaine. J'ai été chez Tige Acura à Québec, fait que c'est un concessionnaire là, du groupe Tige qui vend des modèles Acura.
Puis ils m'ont donné l'opportunité. Très gentil.
Oui, on les salue, là, c'est super apprécié. Ils nous ont permis d'essayer la gamme ou les principaux modèles de la gamme Acura. J'ai pas essayé de Acura NSX parce que on n'est pas encore rendu là dans notre relation de confiance, je pense. Mais j'ai pu essayer un RDX, un MDX, puis une TLX à spec. Fait que je vais y aller dans l'ordre dans lequel ça m'intéressait de les essayer, mais finalement, l'ordre dans lequel je les apprécie, c'est pas le même. Fait qu'il y a eu des twists surprenants.
Pour celle-là, Gab, je te laisse aller. Vas-y.
Ouais, tu peux me laisser aller, puis tu peux tu peux commenter là, s'il y a quoi que ce soit. Mais celui que j'avais le plus envie d'essayer, c'était le RDX, parce que j'avais essayé un RDX première génération il y a plusieurs années. Je vais quasiment être au cégep. Puis le RDX, il y avait un moteur 2.3 litres turbo. C'était plus sport que la plupart des VUS même de luxe là, qui était disponible à l'époque, c'était spécialement puissant. Mais à l'époque, je ne savais pas que ça existait un RAV4 V6. Mais bon, peu importe. Donc, c'était quand même excitant. C'était, à l'époque, je pense qu'il y avait une 5 vitesses et tout. Mais c'était un Honda avec un moteur turbo. Ça n'est jamais arrivé. C'était quand même nice. Fait que là, je voulais l'essayer un. Puis le nouveau modèle de RDX, il y a le 2 litres turbo qui n'est pas celui de la Civic Type R parce que c'est pas la même puissance, là, mais c'est le 2 litres turbo de la famille Honda qui est
Ben,
aussi dans
celui
le
de la Honda
Accord,
Accord.
dans la TLX,
Ça.
dans la Civic Type R, dans différentes variantes, différentes puissances, avec 280 chevaux, 272 chevaux, 280 livres-pieds de couple. Désolé, puis une 10 vitesses. Donc, le RDX est fait sur la base du CRV, même format, ou à peu près, mais plutôt que d'avoir le 1,5 litre puis la CVT, bien, il y a un moteur très beaucoup plus puissant, de 272 chevaux, puis une transmission 10 vitesses. Et puis c'est évidemment une version plus luxueuse là, que le CR-V, puis qui se veut aussi plus sportif. Fait que j'avais hâte de l'essayer. Puis au niveau de la puissance, là, c'est quand même adéquat. Puis là, j'ai réalisé que je pense qu'il faut que je m'ajuste au fait que les autos aujourd'hui ont 9 puis 10 vitesses ou des CVT. T'sais, je peux pas m'attendre à ce que si tu accélères rapidement, que les autos vont aller jusqu'à leur redline, jusqu'à leur limiteur pour changer de vitesse, parce que c'est pas comme ça que c'est le plus efficace. Fait que là, tu sais, avoir une transmission de 10 vitesses, tout est optimisé pour aller le plus vite possible. Ça veut souvent dire changer de vitesse à plus bas régime. Mais en général, j'ai quand même apprécié le RDX parce que je pense que c'est une auto assez pratique, là. L'intérieur du CRV déjà est super pratique. C'est plus. J'ai l'impression que tu as plus d'espace que dans un RAV4. Ça veut pas dire qu'il y a nécessairement
Ah,
plus de
mais
volume,
je
mais
t'arrête là, j'ai
c'est
une
mieux
question.
organisé. Oui, vas-y.
Dans le fond, évidemment, je suis allé te porter le Cadillac XT4 dimanche là, chez toi. Et nous, on n'en parlera pas parce que c'est la semaine prochaine, mais quand j'ai embarqué dans le CRV que ta conjointe avait, là, le CRV normal, là, j'ai ouvert le hayon pour mettre mes bagages.
Il y a
Puis le
tellement de
plancher est
place.
donc ben bas.
Oui, ça, je pense que
C'est-tu,
c'est une
il manque-tu
qualité.
un morceau ou c'est genre comme ça, là?
Non, ben en fait, dans le service, tu peux comme. Tu as deux hauteurs possibles de fond de coffre, là, il va être au plus bas, mais le seuil de coffre des VUS japonais en général, j'ai
Sont bas.
l'impression, est plus bas que celui de d'autres modèles américains et
Donc, la
européens, c'est ça?
suspension est beaucoup affectée, ce qui fait que ta conduite est un
Non,
petit peu plus moyenne.
pas nécessairement parce que la conduite du CR-V puis du RDX, c'est super bien, là,
Ouais.
vraiment mieux
Mais
que
ma
mon RAV4,
question
mettons.
va là, Gab. Le RDX
Mais
avait-tu la même hauteur de plancher de chargement
oui,
que la
oui. Puis
CRV?
en plus,
Même
t'es
chose,
un
OK.
coffre en dessous du coffre, là, t'as de l'espace de
Oh.
rangement en dessous, là, c'est super pratique. Pour vrai, c'est comme un CR-V, mais plus luxueux, plus puissant, plus
OK.
sport. Puis si t'aimes pas la CVT, mais t'as pas à gérer de CVT dans le RDX. Fait que c'est très bien, mais je pensais que ça serait le véhicule que je préférais cette semaine. Mais ça n'a pas été celui que j'ai préféré. Parce que j'ai conduit le MDX, en fait, en premier. Puis, bon, encore une fois, là, tu vas me dire qu'on est des vendus d'Honda et Toyota dans ma famille. Quelqu'un dans la famille qui a déjà eu un
Oui,
MDX
Gab, t'es
première
vendu
génération,
Honda et Toyota, c'est un
évidemment.
fait, mais on continue.
Absolument. Puis, tu sais, en général, j'ai toujours trouvé qu'un VUS intermédiaire, c'était pas mal le format idéal de voiture parce que t'as la practicalité d'une minivan, mais pas nécessairement. Tu peux embarquer 7 personnes, 8 personnes, 6 personnes, dépendamment des configurations. Puis, ben, t'sais, le MDX, il tire aussi 5 000 livres. Oui, il est disponible, tu peux tirer 5 000 livres avec l'équipement de remorquage approprié. Fait que c'est très bien. Puis, honnêtement, entre le 2 litres turbo du RDX, puis le V6 un peu plus old school du MDX, ben, je préférais le V6 du MDX qui est légèrement plus puissant. Là,
C'est
mais
le
tu sais, c'est pas.
3,7 ou le 3,5?
C'est le 3,5. Ça fait plusieurs années là, qui ont passé
OK.
au 3,5. Puis le MDX était redessiné un peu plus récemment. Il était un peu plus beau là, que celui des dernières années.
Ben, le
Fait que.
capot est très long, ça, j'aime ça, là. Tu sais que j'aime les capots
Oui.
très longs, là.
Oui, mais ça se conduit comme un véhicule plus petit que c'est. Dans le fond, tu conduis le MDX, puis tu n'as pas l'impression d'être dans un VUS intermédiaire. Tu as l'impression d'être presque dans un VUS compact. Puis ça, un, ça m'a surpris. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé la traction intégrale Super Handling All-Wheel Drive. Là. Dans le fond, il y a de la vectorisation du couple.
Oui,
Le
c'est exactement ça le mot. Au lieu de
torque
dire torque
vectoring. On va dire
vectoring.
la vectorisation du couple à l'arrière. Il peut choisir de mettre plus de puissance sur la roue arrière extérieure. Puis, bon, là, j'ai pris une bretelle d'autoroute, puis c'était un peu mouillé. Puis, si tu accélères un peu, tu le sens vraiment. Puis, c'est surprenant parce que c'est comme pas normal pour un VUS, là, mais ou tu t'attends pas à ça d'un VUS, mais tu sens vraiment que ça fonctionne, puis que ça te projette, puis que Ça te permet d'aller plus vite tout en restant en contrôle. Puis ça, honnêtement, il y a plusieurs voitures là, qui ont du torque factoring, là, puis ça se fait de différentes manières. Entre autres, plus généralement qu'autrement, avec en
Le système
freinant la.
ABS, ouais.
Oui, c'est ça. Dans le fond, tu
Ça
freines
se
la
fait pas en
roue.
accélérant, tu comprends?
Non, c'est ça.
Ça
En
se fait toujours de
général, ça ne se
l'autre
fait pas
bord.
en accélérant, ça se fait en freinant l'autre roue. Mais là, dans le Acura, puis il y a d'autres systèmes aussi à traction intégrale qui font l'équivalent. Mais là, tu mets plus de couple sur le roue extérieur, puis honnêtement, ça m'a surpris, puis agréablement surpris, c'est quand même nice. Mais tu sais, je veux dire, tu n'as pas nécessairement besoin de ça pour sortir de ton banc de neige ou de ton entrée le matin. Mais bref, ça, c'était vraiment intéressant. Super pratique, cette place, sept sièges en cuir. Tout ça, c'était très bien. Puis, j'ai conclu mes essais par la TLX A-Spec. Puis là, honnêtement, c'est les gens chez Teej qui m'ont suggéré d'essayer la TLX. Parce que je l'avais même pas demandé initialement. J'avais dit, je vais essayer un RDX, un MDX, c'est ça qui m'intéresse. On vit dans un monde de VUS, puis on va parler de VUS. Mais, j'ai essayé la TLX. Puis là, ça m'a rappelé ce que j'avais oublié, que c'est bon une berline. Tu sais,
Ben
c'est
oui.
les sensations que tu as d'être dans un VUS, puis haut, puis tout ça. Mais quand tu redescends sur Terre dans une berline, mais t'es vraiment plus connecté à la route. Plus bon, c'est le modèle A-Spec, donc c'est la version avec si tu veux, l'apparence plus sportive. Donc c'est encore le 2 litres turbo qu'il y a
Ah, c'était
dans
pas le
le
trois
RAV4.
litres.
Non, c'était pas une type S. Parce que là, type S, 355 chevaux, là, ça serait très excitant. Mais on n'est pas encore rendu là. C'était une A-Spec, donc c'est le moteur de base, mais avec un groupe d'apparence plus sport, des compteurs plus sport, un intérieur différent, puis tout ça. Puis, c'est quand même le fun. Puis tu sais, dans le fond, même si on vit dans un monde où presque tout le monde achète des VUS, je comprends qu'il y a encore de l'intérêt. Puis je comprends qu'il y a encore des gens qui achètent des TLX, puis des Audi A4, puis des BMW Série 3,
Des Volvo S60.
puis des. Puis des
Non, il n'y
non,
a personne qui
non,
achète des Volvo S60,
personne
à part
pas
moi.
toi achète de Volvo S60, là. Mais c'était quand même le fun. Puis bon, ce que j'ai trouvé, par exemple, j'ai deux commentaires là, sur la gamme au complet de ce qu'on a essayé, là. Un, la conduite dans ces modèles-là est très, très, très assistée, là. Si tu restes en mode confort, le volant, puis là, c'est une question de préférence personnelle, là. Moi, je trouve qu'il est trop léger. Mais si tu peux changer de mode, là, il y a un très gros bouton là, dans les trois autos là, pour changer de mode, puis aller en mode sport ou sport plus. Le RDX, c'est un mode encore plus sport que sport. Bref, tu changes ça, puis là, ben, ça change la dynamique, puis les changements de vitesse, puis ces choses-là. Puis ça ajoute du poids dans la direction. Mais ça me donnait le sentiment que c'était un peu fait artificiellement. J'avais l'impression que oui, je forçais plus pour tourner, mais j'avais pas l'impression que j'avais plus de retour, que j'avais plus de sensations qui provenaient de la route. J'avais l'impression que c'était un peu artificiel, ça m'a déçu un peu. Puis là, je pense que ça, faut en parler, là. Le système d'infodivertissement des trois modèles que j'ai essayés, les trois modèles 2021, il y a un pavé tactile, en fait, là, sur la console centrale. T'as un petit pavé tactile, puis en déplaçant tes doigts là-dessus, tu es capable de choisir les icônes dans les menus, puis de te déplacer, puis faire les différentes actions, accéder à la navigation, ces choses-là. C'est pas très intuitif. Honnêtement, j'avais quand même de la. Puis c'est sûr que tu finis par t'habituer, mais moi, c'était la première fois que j'ai embarqué dans ces autos-là. Puis même après avoir essayé les trois, j'ai passé, mettons, je pourrais une heure au total, t'es dans les trois voitures. J'étais pas encore habitué à la fin. Puis l'écran, il est pas tactile. Fait que des fois, il y a des
Ah, mon
modèles
Dieu.
où t'as une redondance, t'as un pavé tactile ou quelque chose comme ça, mais l'écran est aussi tactile. Et le CRV, depuis 2017, il y a un bel écran tactile et tout. Mais là, ces modèles-là, pas d'écran tactile, c'est vraiment juste le pavé tactile. Puis ça, ben, j'étais un peu déçu. Je pense que c'est correct là, de vouloir quelque chose de différent puis d'offrir le pavé tactile, mais je pense que qu'Acura ou Honda auraient dû choisir de aussi rendre disponible une interface tactile sur l'écran. Puis ça aurait fonctionné. Il pourrait s'ajuster puis le faire. Je pense pas que ça coûterait. Je pense pas que ce soit un défi de recherche et développement. Je pense que
Non, pas
c'est
du
juste un
tout.
choix technologique. Puis, c'est certain que t'es peut-être que pour la sécurité, c'est mieux aussi de pas avoir à jouer dans l'écran puis tout ça, puis de déplacer ton attention. Mais même si tu peux t'habituer, la réalité, c'est que c'est moins intuitif. Puis si c'est une auto qui n'est pas la tienne, ben là, dans ce cas-là, c'est pas l'auto que je conduis à tous les jours. Ça, j'ai trouvé ça un peu plus difficile. Puis je pense que Acura aurait dû au moins offrir l'écran tactile en plus du pavé tactile.
Ben, moi, de ce que
Sinon.
je vois, là, j'aime beaucoup le résumé que tu viens de faire, là. Souvent, les véhicules qui n'ont, en 2021, là, qui n'ont pas d'écran tactile, c'est que l'écran est très, très loin sur la console.
Ben, c'est vrai qu'il est assez
d'un
haut,
point de vue
là.
d'ergonomie, genre, s'il est tactile, ben, t'attires ton bras, le monde va dire pourquoi tu l'as fait tactile, pourquoi je paye pour ça. Là, après ça, tu t'en vas dans la tout le, mettons, le tourbillon de, ben là, il faut redesigner l'intérieur. Puis, moi, je suis pas un fan du design intérieur des Acura. Là. On dirait que c'est comme un grand V tout le temps avec un gros bouton central qui tourne comme une. Ça me fait toujours penser à une laveuse. Mais ça, c'est. Je vais pas insulter personne. Ça me fait toujours penser à une laveuse avec un gros bouton que tu tournes. Mais ça fait que ton écran est très, très loin sur ta planche de bord. Donc là, tu es là à étirer ton bras. Fait que je comprends pourquoi ils ont pris le pavé tactile. Lexus faisait ça avant. Mais oui, là, il faudrait comme que l'écran soit juste intégré comme, mettons, les Européens ou les Américains. Tu sais.
Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme je disais, je suis certain que tu t'habitues. Si tu passes une semaine ou deux semaines dans cette auto-là, puis tu l'achètes, ça va fonctionner. C'est juste que c'est un choix que moi, ça, en tout cas, ça sort de mes préférences. Là. Puis, tu sais, je suis habitué. Écoute, dans mon bon vieux RAV4, j'ai un écran tactile. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités.
Il n'y a pas beaucoup de pixels mais, aussi.
Il n'y a pas beaucoup de pixels non plus. Mais si je pèse sur quelque chose, sur ce que je veux faire, ben, ça le fait. Donc, de au moins l'offrir, je pense que ça aurait été intéressant. Je pense qu'ils vont devoir s'ajuster. Mais sinon, en général, là, t'sais, la qualité, c'est très bien. C'est des véhicules japonais, c'est sûr que c'est fiable. Puis honnêtement, t'sais, si vous voulez une berline, ben, une TLX au lieu d'une A4 ou une BMW série 3, vous allez probablement avoir quelque chose de plus fiable. T'sais. Mais c'est différent. C'est sûr que c'est pas le même genre de conduite. C'est quand même différent. Mais c'est assez nerveux. Il y a moins de excité. Puis le MDX pour une auto familiale, c'est intéressant. On a un collègue d'ailleurs qui s'est acheté un MDX.
Hey, mais tu fais un beau segue là-dessus. Oui. Ben, dans le fond, ça date de peut-être 3 épisodes déjà, Sylvain. Qui cherchait une deuxième voiture pour sa famille parce qu'il y a
qu'est-ce qu'on y avait recommandé?
Pas ce qu'il a acheté, ouais, un hotback. Fait que là,
il a acheté quoi?
Un Acura MDX.
2010.
Fait que dans le fond, la première année avec le 3.7, avec la 6 vitesses au lieu de la 5, puis il est chanceux, il a trouvé ça sur la rive sud de Québec, là. Il y a toutes les options qui existaient.
Mais je pense pas que c'est la première année, je pense que c'est 2007. Qui ont introduit le.
Non, c'est 3.5. Non, c'est, ils ont changé.
Mais ça, c'est celle avec le béquet, là. Mais cette génération-là, elle a commencé avant.
Oui, oui, cette génération-là a commencé en 2007, puis il y a eu un refresh en 2010.
Ah, OK.
Ah, oui, oui. Ouais. C'est ça, puis il y a une suspension pneumatique et il y a un régulateur de vitesse adaptatif en 2010. Ah, là, ça, c'est venu me chercher. Mais en tout cas, pour tout ça pour dire qu'on lui a proposé un hotback, il est réellement allé les voir, il était intéressé. Il y avait peu de hardback de disponibles dans la région de Québec, là, dans l'usager. Puis ça a fini que sa conjointe a vu dans un stationnement de centre d'achat un MDX. Elle a dit « Hey, c'est donc bien beau ça. » Puis il a commencé à chercher, puis ça a fini que ça fitait.
L'avantage aussi des Acura, là, c'est que sur le marché de l'usager, c'est moins cher qu'un Lexus.
Ben oui.
Tu sais, la dépréciation est plus rapide. Là. Et Sylvain a payé moins que 10 000 là, pour ce véhicule-là. Là, c'est... Écoute, un Lexus RX 350, là, ça n'aurait pas été le même prix.
Ben, c'est plus qu'un RX. Il y a 7 places quand même. Là. C'est plus. T'sais, en fond, oui, c'est un Honda Pilot. Puis le pire, Honda Pilot était plus cher même année, même kilométrage. Ça, c'est fascinant. Là, okay?
C'est ouais, mais c'est fascinant. Il y a peut-être une question aussi d'entretien. Puis de. Tu sais, c'est drôle parce que je lisais récemment, je ne sais plus si c'est l'annuel ou le guide de l'auto, là, mais. T'sais, il disait le MDX, c'est le Laurent Duvernay Tardy des VUS. T'sais, dans le fond, ça fait tout.
Il fait tout.
Fait tout. Tu peux tirer ta roulotte, tu peux traîner des enfants, il y a un DVD. Celui-là, mon père, en 2006, il y avait un DVD. C'était fascinant. On pouvait écouter des films. Il y avait des écouteurs sans fil, mais t'es pas Bluetooth.
Ouais, ouais, effectivement.
Fait que, tu sais, c'est un bon véhicule familial. Là, je veux dire, au lieu de. T'achèterais-tu une Dodge Caravan à 10 000 piastres ou un MDX
jamais.
À 10 000?
Jamais. Je prends un MDX, même moi, là, qui est pas. Je suis pas attiré naturellement vers ces véhicules-là, mais j'ai fait le tour et je me suis dit, tu sais, en bas de 10 000 $ le kilométrage, j'ai regardé la mécanique. On avait une filière avec l'entretien qui était faite. J'ai fait, ah, c'est numéro un. Tu sais, pourquoi elle a commencé à dire, oh, moi, je suis pas d'accord avec la marque, mais non, voyons donc, là, c'est parfait pour une famille, ça.
Ouais, puis là, je pense que ça aussi, c'est un des avantages. Quand tu vas. Disons que tu achètes un Acura au lieu d'un Honda, que tu achètes un Lexus au lieu d'un Toyota, un Audi peut-être au lieu d'un Volkswagen, que c'est des modèles équivalents. Les modèles de luxe, je pense que les gens ont peut-être plus tendance à faire l'entretien minutieusement, puis au
Ils ont plus les moyens aussi souvent en moyenne.
Ben, souvent. C'est ça. Tu sais, tu peux acheter une auto qui a quand même un certain âge, mais qui a quand même bien été entretenue, tu sais, qui ne souffre pas des problèmes de comment t'appelles ça, là, le théétisme.
Ouais, genre, tu n'y as jamais touché parce que c'est fiable, fait que je n'y toucherai pas.
Ouais, c'est ça, t'as pas ces problèmes-là, t'es parce que les gens qui ont des véhicules de luxe, généralement, ils vont faire là, ils veulent que leur garantie soit honorée, tout ça, ils vont faire leur entretien au concessionnaire. C'est pas nécessairement une règle absolue, là, faut toujours faire respecter une voiture avant de l'acheter.
Non, mais
Mais.
généralement, les voitures de luxe sont souvent bien entretenues par le propriétaire. Généralement. Plus souvent que les
Exactement.
voitures de les grandes marques normales où les gens, ben, ils sont comme, ben là, je sais pas, là, tu sais, c'est plus onéreux. Puis c'est correct, là, c'est pas une critique, c'est juste, c'est un fait, tu sais.
Ben, c'est ça. Puis faut que tu choisisses aussi une voiture en fonction de l'entretien que tu vas mettre dedans. Il y a des gens qui veulent juste avoir des autogaranties. Puis il y a des gens que ça leur dérange pas de travailler eux-mêmes sur leur voiture. Puis il y a des gens qui vont toujours faire l'entretien au concessionnaire. Puis
C'est
c'est
ça.
comme ça. Fait que sur ce, Alex, la semaine prochaine, on va avoir des choses intéressantes, mais on n'en dira pas trop. En tout cas,
Non, c'est des surprises.
cette semaine, on roule en Cadillac. On va juste vous dire ça.
C'est ça. On roule en Cadillac, puis dans le fond, dimanche prochain, on a plein d'affaires à préparer pour le mercredi suivant que vous allez écouter l'épisode. Ce qui est important, on va commencer à le dire. Si vous voulez tout savoir ces affaires-là, là, c'est à être abonné à la chaîne YouTube Plus de Millage, d'être abonné sur Instagram à Plus de Millage. Et de vous abonner à peu importe le service là, de podcast que vous utilisez, Spotify, Google ou SoundCloud, c'est pas important pour nous tant que vous êtes abonné. On va être super
Oui,
contents.
exactement. Puis sur YouTube, il faut cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications pour savoir quand on sort du contenu exclusif qui n'est pas sur les plateformes du podcast.
Ouais, exactement. Fait que sur ce, merci à tous et garde à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.